Mon nom est Catherine Gervais et je suis kinésiologue.
Et moi, Joëlle Fortisouci et je suis physiothérapeute.
On anime Ton Périnée en santé, un podcast pour les mamans de tous âges et les futures mamans.
On démystifie tout ce qui touche à la santé abdominopelvienne de la femme. Ici, pas de tabou, on veut informer et enseigner.
So, let's go!
Hello tout le monde! Salut Catherine!
Salut Joëlle!
Cette semaine, on vous parle de l'AVAC, l'accouchement vaginal après césarienne. Et en même temps, Catherine va nous parler aussi de son expérience. Petit rappel, si vous voulez voir le récit complet, c'est disponible sur le podcast entre l'épisode 67 et 68. Dans le fond, tous nos récits là, d'accouchement s'y retrouvent.
Yes.
Donc, commençons sans plus tarder. Catherine, ça a été quoi ou tu sais, comment tu t'es sentie dans cette expérience-là?
Ouais, ben ça avait commencé en préconception de cette deuxième grossesse-là. Je vais en reparler plus tard, là, mais j'avais lu des livres, j'ai eu une césarienne, mais est-ce que je suis obligée d'avoir d'autres césariennes? T'sais, on dirait que je ne savais pas ça. Fait que là, je me suis renseignée, puis là, je me suis dit, ah ben oui, OK, l'AVAC, je ne connaissais pas ce terme-là. Fait que ben, je vais me préparer à ça. Là, quand j'ai su que j'étais enceinte, mon premier réflexe a été d'appeler pour avoir un suivi sage-femme parce que j'avais vraiment très mal réagi à la péridurale à mon premier. Là, j'avais perdu connaissance, puis même il avait fallu qu'il m'endorme pour ma césarienne.
Fait que tu t'étais mis comme objectif que tu voulais éviter la péridurale.
Oui, c'est ça. J'étais comme, c'est vraiment pas pour moi. Là. Ça n'a pas été une bonne expérience. Fait que là, je me dis, ben là, pour me motiver à me préparer à accueillir, gérer la douleur d'un accouchement, ben je me suis dit, les sages-femmes, je pense que ça pourrait être bien. Fait qu'on est allé à la réunion, la conférence un peu d'accueil qui explique c'est quoi un suivi sage-femme. Avec mon conjoint, on en a parlé. Puis finalement, on s'est dit, ben ouais, on essaye ça. Fait que mais tu sais, comment je l'ai vécu après ça? Tu sais, on travaille dans le public, nous autres, là, on parle bien du monde. Dans le fond, moi, je travaillais à ce moment-là en salle d'entraînement. C'était principalement des femmes de tous les âges. Fait que oui, des retraités, des madames qui ont bien des choses à nous raconter, des gens plus âgés. Fait que là, tu sais, l'entraîneur, la kinésiologue qui est enceinte, c'était un sujet de conversation populaire. Là. Fait que j'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup de commentaires comme quoi, hey, si j'avais une césarienne dans mon premier, il fallait vraiment que j'aie une césarienne dans mon deuxième. Là. Parce que la voisine de la belle-sœur de ma cousine, il est arrivé telle affaire à son bébé. Puis tu sais, là, l'histoire de peur, là, t'en as un peu pendant ta grossesse, là, mais là, vu que j'essayais un accouchement vaginal après avoir une césarienne, c'était comme l'enfer. Moi, j'étais juste comme, hey, tout va bien, je rayonne, je suis enceinte, comme pourquoi, tu sais? Pourquoi vous me racontez vos trucs de catastrophe? Puis c'est ça.
Oh, c'est sûr que la voix.
La rupture utérine, puis là, ça revenait comme moi, j'étais là, la quoi?
La voix que tu as choisie, il t'en parle pas d'emblée de toute façon, tu sais, comme c'est pas. Ces cartes-là sont pas sur la table là, avec les sages-femmes de toute façon, de tout de suite reproposer une césarienne, tu comprends?
Ouais.
Est-ce que tu sais si tu avais été au niveau plus suivi médical par médecin ou gynécologue, est-ce que ça aurait été quelque chose de fort?
Ben en fait, après, en suivi, après ma césarienne en gynéco, c'était comme 3 mois après mon accouchement, de la façon que ça avait guéri tout ça, c'était une gynéco qui était quand même jeune, que j'ai adorée. Elle m'a dit « tu serais une bonne candidate à la vague. » Fait que, tu sais, j'avais déjà eu cette...
Au niveau médical, c'était déjà ouvert, là, comme
après
possibilité.
Ça, okay. Un an après ma césarienne, j'avais recommencé le bateau dragon. J'avais eu d'énormes douleurs au niveau, tu sais, d'un ovaire, puis l'utérus. Je savais pas c'est quoi, tu sais, c'était un lien avec le sport ou non. Fait que j'avais refait vérifier ma cicatrice, passer un écho, tout ça. Finalement, ça s'est avéré être musculaire. Là. C'était le sport que, justement, j'avais peut-être repris trop vite ce sport-là. Je sais pas, on le sait jamais. Le reste, ça allait bien parce que j'avais eu des douleurs, j'avais fait vérifier. Puis encore là, elle dit « Ah, t'sais, ta cicatrice, non, tout va bien. T'es même une bonne candidate à la VAC. » Fait que t'sais, d'emblée, sans que je pose la question, 2 gynécologues différentes m'avaient confirmé ça. Fait que c'est là que, justement, j'avais lu le livre. Puis d'ailleurs, ce livre-là, je me suis un peu basée. Tantôt, je vais rentrer plus dans le mode statistique. Là. C'est un AVAC ou un accouchement naturel de Hélène Vadeboncœur. Fait que c'est le livre que j'avais lu à ce moment-là. J'avais rejoint un groupe Facebook aussi sur l'AVAC. Fait que j'avais plein de témoignages. C'était comme stimulant. Moi, j'étais justement sur un petit nuage. Fait que là, je me faisais...
Fait que là, au gym, tu te faisais...
Au gym, je me faisais
raconter les histoires.
Oui, c'est ça. Oh, fait que là, j'étais comme, ben non, là. Moi, j'étais vraiment en mode, une étape à la fois. Tu sais, premier écho, y a-tu un cœur, deux cœurs? Y a-tu un bébé? Y en a deux. des jumeaux, ça aurait été différent. Alors, OK, première écho, tout va bien. Deuxième écho, mon placenta aussi, il est comment? Il est-tu vers le col? Est-ce que ça s'aligne pour un accouchement vaginal?
Tu coches des cases dans ta tête.
C'est ça. Moi, c'est un test à la fois, une écho à la fois. Fait que j'étais bien contente aussi, le suivi sage-femme prenait le temps de répondre à mes questions. On a pris le temps aussi d'aller chercher dans les archives le récit du premier accouchement pour un peu comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Parce que j'avais quand même eu un travail jusqu'à 10. Je poussais à tout ça. Fait que j'ai comme eu deux accouchements en un. Fait qu'après ça, ça sortait pas. Puis j'étais partie en césarienne d'urgence. Mais de comprendre qu'est-ce qui s'était passé, comment mieux se préparer, ça, je le recommande à tout le monde, en fait, d'aller...
Oui, c'est ça, j'allais dire.
Oui, de... puis les sages-femmes, ils le donnent d'emblée. J'ai accouché, ils ont fait leurs notes. Deux semaines après, j'avais le... Même sur le coup, je pense, j'avais tout de suite mon...
Wow.
Mon résumé de l'accouchement. Là. Fait que je conseille, si tu ne l'as pas eu, d'aller le chercher aux archives. Là. C'est à toi.
Oui, puis on n'est pas toutes là. Tu sais, quand on accouche, il y a un moment où est-ce que, tu sais, c'est normal. Il y a la fatigue, il y a comme les hormones, l'intensité de la situation fait que tu ne remarques pas tous les détails. Fait que c'est toujours intéressant de pouvoir revivre ça d'un point de vue plus objectif, on va dire.
Ouais. Sauf la partie quand tu fais caca qui est notée, si tu veux pas t'en savoir. Mais t'as accès à tout. Fait que tu le sais, il était très bonne poussée, mettons, belle respiration, belle. T'sais, tout est là, là. Fait que c'est le fun. Moi, je le relis de temps en temps. Là. J'aime bien ça. Oh. J'avais aussi dans ma grossesse, dans le fond, participé à l'étude Prisma. De toute façon, on va y revenir un petit peu plus tard, là, mais. C'est la partie de l'étude moi, que j'avais faite, ça mesurait l'épaisseur de notre cicatrice de césarienne qu'on avait eue. Fait que c'était à peu près à 34-35 semaines de grossesse. Là. Oui, c'était à la fin. Fait que c'était une écho qu'il fallait boire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Puis même, je pensais que ma vessie était pleine. Puis je me faisais dire non, pas encore. Il fallait genre boive de l'eau, je marche dans le corridor. Ça a été comme la pire écho de toute ma vie.
J'aurais détesté ça.
Ah non, c'était vrai. Le feeling après quand tu urines 2 litres d'eau. Mais... finalement, ça s'est avéré que ma cicatrice était comme assez épaisse. Fait qu'eux, ils avaient comme, OK, plus que... Pour vrai, je m'en souviens plus. Là. Je pense que c'est plus que 2 ou 2,3 mm. C'est... Tu serais une bonne candidate à... Sinon, ben, il y a plus de risques. Après coup, ils se sont rendus compte que non, pas nécessairement. Mais c'était l'étude qui était là en cours à travers
le
Québec.
Oui, c'est ça. Y a-tu vraiment un lien, finalement, avec
l'épaisseur
de cicatrice?
Fait que...
À suivre.
Mais c'est pas, il n'y a pas eu tant de consensus comme quand même là-dessus. Mais... Il mesurait à ce moment-là pour cette étude. Ouais, moi, je voulais le faire. Ça avait, dans le fond, la gynéco qui s'occupait de passer ces tests-là aussi, elle avait calculé mes chances de réussite d'un AVAC, puis c'était de 58%. Donc, moi, j'étais comme, bah, un petit peu plus qu'une chance sur deux. Fait que, puis ça, ça dépendait de mon âge, de justement qu'est-ce qui s'était passé au premier accouchement, l'IMC, donc le poids par rapport à la grandeur, tout ça. Il y avait comme plein de paramètres. Ils remplissent ça, puis tu sors un score. C'est pas beaucoup, 58.
Non, c'est
à
ça.
À l'école du poche. Là. Mais moi, j'étais comme, ben, c'est quand même plus qu'une chance sur deux. Mais moi, j'étais comme un mode, une étape à la fois. Fait que je voulais juste essayer. Moi, dans le fond, c'était ça. Je voulais juste essayer. Fait que c'est ça. J'ai lu le livre « Une autre césarienne ou un accouchement naturel » d'Hélène Vadeboncœur, que je vais reparler un petit peu plus tard, les statistiques de ce livre-là. J'ai aussi beaucoup aimé lire « Une naissance heureuse » d'Isabelle Babran. Je ne sais pas si toi, tu l'as lu, mais...
Non, mais j'en entends tellement parler.
Oui, vraiment un gros, gros manuel.
OK.
Mais très, très intéressant là, à lire. J'ai aussi pratiqué beaucoup les techniques de gestion de la douleur. J'ai visionné les positions d'accouchement de Dr. Bernadette de Gasquet sur YouTube. Ils sont là. Même, j'avais eu une formation avec Dr. Bernadette de Gasquet quand j'étais enceinte de 7 mois. Fait que j'avais testé des affaires en live avec elle. Ça, c'était comme dans mes plus beaux moments de ma grossesse quasiment. Sauf le voyage à Montréal, partir à 4h du matin. Ouais. Mais bon. Fait que mes astuces pour celles qui voudraient, dans le fond, tenter la VAC, là, c'est d'être bien informée, bien préparée, là, comme j'ai fait. Surtout si tu choisis d'accoucher avec un médecin en milieu hospitalier, parce qu'il y en a qui sont encore frileux, justement, par rapport à la VAC. J'avais une amie aussi qui avait une césarienne en même temps que moi, puis que dans sa famille, il y a une gynécologue, puis il était comme frileux, puis c'était comme non, 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 tu devrais pas. Puis là, oups, quand que moi, j'étais enceinte, 2 ans après, même pas. Il y avait eu des formations, les gynécos plus sensibilisés à ça. Puis là, tout à coup, c'était comme les gynécos devenaient un peu moins frileux puis ils proposaient aussi à mon ami de tenter la VAC. Fait que c'est ça, ça l'a changé vraiment beaucoup là, entre 2016 et 2017. Là, dans le fond, j'étais enceinte 2017-2018 pour ma deuxième. Fait que dans la même année, cette gynécologue-là que mon ami connaissait a eu un changement un peu dans sa mentalité. Fait que ça dépend de chaque médecin, finalement. Il y en a qui sont plus frileux, moins frileux par rapport à ça. Moi, j'avais choisi d'accoucher avec sage-femme, mais je voulais que ça soit à l'hôpital, ce qu'on peut faire, en fait. Puis c'était aussi clair avec ma sage-femme que si jamais t'es pas disponible parce qu'il y avait trop d'accouchements en maison de naissance, bien que j'irais pas en maison de naissance, que j'irais quand même à l'hôpital, puis ça serait un médecin de garde qui m'accoucherait. Fait que, tu sais, dans la préparation, il y avait ça aussi. Fait que faut vraiment préparer les éventualités. Fait que j'étais bien contente, finalement, ma sage-femme, quand je l'ai appelée à 6 heures du matin, elle était libre, elle avait pas beaucoup dormi, oh. Mais elle s'est emmenée à l'hôpital. Fait que ça c'était super. Là. On a quand même créé notre petit cocon à l'hôpital. Je me sentais rassurée d'être là, puis j'avais quand même aimé mon expérience du premier, même si ça avait... Il y avait une belle cascade d'interventions que ça avait mal fini. Je veux dire, j'aimais quand même mieux ça que de traverser le pont. J'ai comme une phobie de traverser le pont pour aller à la maison de naissance à Nicolette en partant de Montréal. Mais ça, c'était c'est... comme mon
c'est
mon
pas le pont, la phobie, c'est que c'est loin. Là.
C'est que c'est loin, ouais. C'est ça. Fait que chacun s'est levé différemment. Puis moi, c'était ça à ce moment-là. Après coup, finalement, la maison de naissance, c'est vraiment le fun. Fait que je serais peut-être allée, mais en tout cas, à ce moment-là, c'était l'hôpital. Je me sentais bien là-bas. Sinon, qu'est-ce que... Je vais juste revenir, pas oublier des petits points. Là. Je m'étais pris quand même plein de notes. Là. Ah oui, c'est ça. T'sais, le personnel hospitalier. J'ai une cliente qui me racontait que la gynécologue de garde l'a accueillie en disant « Ah, tu tentes un AVAC? Moi, je suis en fin de garde. Je suis vraiment fatiguée. J'ai pas le goût d'être stressée avec toi. Fait que si ça va mal un peu en cours de route, là, c'est césarienne. OK, ma grande? » T'sais, ce genre de discours-là. Moi, quand on me dit, si on me dit ça, je suis comme, ouais, watch me. Ouais, mais une autre aussi. Cliente qui est comme plus anxieuse, elle aurait peut-être fait comme, oh, OK, j'ai pas tombé sur quelqu'un qui a. Fait que c'était ça. Je voulais pas avoir ce genre de commentaires-là. C'est vraiment poche là, de se faire de ça en début de travail. Fait que finalement, cette cliente a complété son AVAC aussi parce qu'elle était du genre, ah ouais, watch me.
Ah ouais.
Mais bref, c'est ça. Fait qu'il y a de plus en plus d'études là, qui sont parues dans la dernière année qui démontrent le risque faible de l'AVAC, là, pour vrai. Surtout qu'on sait qu'une césarienne répétée, c'est pas sans risque. Là. Fait que le fait d'avoir une autre césarienne, ça amène quand même d'autres choses. Fait que je vais rentrer dans les statistiques un peu plus. Donc, la proportion de césariennes par rapport à l'ensemble des naissances se situe autour de 25 %. Ça, c'était en 2016-2017, justement, quand j'ai eu la mienne, avec une femme sur quatre. Parmi les femmes qui ont une césarienne antérieurement, il y a environ 29 % qui vont tenter une épreuve de travail après césarienne, qu'on appelle l'étac. Fait que l'étac, c'est « OK, je veux essayer ». Fait que moi, j'étais dans un état de « oui, je veux essayer ». Puis il y a 70 % qui vont avoir un accouchement vaginal là, là-dessus. Fait que, en d'autres mots, sur 100 femmes, mettons, qui ont accouché, il y en a 25 qui ont une césarienne. 18 parmi ceux-là vont vouloir une césarienne d'emblée. Fait que,
quand même.
Sur les 25, il y en a 18 qui font comme non, une autre césarienne. Puis il y en a 7 qui vont tenter la VAC. Fait que, tu sais, c'est quand même pas beaucoup, je trouve, par rapport à, en tout cas, moi, toutes les statistiques que j'avais lues d'une autre césarienne d'emblée.
Puis pour la majorité, ça reste un choix, là.
C'est ça. Ça reste un choix éclairé. Le risque de séparation, de rupture utérine, dans le fond, là, c'est l'ouverture de l'incision de l'utérus que tu avais antérieurement. Dans un AVAC, c'est 2 à 6 femmes sur 1000. Donc, sur un accouchement qui serait non provoqué. Fait que 0,2 %. Les études, les statistiques ne font pas la distinction entre est-ce qu'il y a eu un amincissement ou si vraiment ça l'a rupturé. Fait que des fois, l'amincissement pendant l'accouchement, ça tombait comme « Ah! » C'est un risque de rupture utérine, dans le fond. Fait que ça comptait là-dedans. Fait qu'on ne le sait pas. Là, est-ce que ça a juste été un amincissement, ça n'a pas eu besoin de réparation ou c'était une vraie rupture sur ces 2 à 6 femmes-là sur 1000? Donc, c'est ça. Entre 0,2 à 0,6 % de risque, s'il n'y a pas de déclenchement ou il n'y a pas de stimulation de travail, aussi, on va en revenir plus tard. Là. Mais dans le fond, ce taux-là, là, il se compare à une amniocentèse. Le risque d'une amniosynthèse, c'est à peu près ça aussi. On dirait qu'on se fait conseiller une amniosynthèse pour le bébé, on la fait quasiment d'emblée. Mais pour l'AVAC, c'est comme où on est plus frileux des fois. Fait que, c'est intéressant à savoir, je trouve. Puis il y a une étude qui est parue récemment là, que je n'ai pas réussi à mettre la main dessus parce qu'elle n'est pas sortie encore en version numérique. Là. Fait que justement, de l'étude Prisma, ça parlerait d'un risque qui serait vraiment plus proche du 0,2 %. Fait qu'on est à moins de 2 femmes là, sur 1000. Là. Fait que le 0,6, ça tend vraiment plus vers le 0,2 %. Fait que c'est super encourageant.
Vraiment.
Je vous mettrai les sources là, des études là, que j'ai vues aussi en note de l'épisode, si ça peut en intéresser quand même plusieurs. Les gynécologues aussi sur le site Internet de leur regroupement, ils vont avoir quelque chose sur la VAC. Les sages-femmes aussi ont un gros document sur la VAC. J'avais tout lu ça, en fait. Les médecins accoucheurs aussi. Fait que tous les documents officiels avec les stats, pas juste le livre, là, j'avais tout lu ça. J'aimais ça lire là, le soir. J'aime ça, les stats.
Donc, c'est du qui?
Puis là, il faut savoir que rupture utérine, ça égale pas décès du bébé. Parce qu'il y en a qui pensent que c'est ça aussi. Fait que parmi toutes les ruptures utérines, donc le 0,2%, là, ben le risque de décès du bébé là-dedans, c'est de 5% environ. Fait que tu sais, c'est vraiment quand même pas beaucoup.
Ça fait-tu une hémorragie?
Oui, dans le fond, c'est ça. Ça fait une hémorragie. Puis là, ils vont. C'est ça. Ça a intérêt quand même à être proche. Oui, c'est ça. Ça presse. Mais c'est ça, il y a comme des trucs comme le monitoring en continu, là. Il est là pour ça. Fait qu'ils vont essayer de déceler, ils vont, la température de la mère, fait, de la fièvre, tout ça. Il y a plus de trucs à faire, la justement, surveillance. De surveillance là, pour ça. Mais oui, on peut aller dans le bain aussi quand même, parce que c'est Bluetooth maintenant. Pas partout, mais en tout cas.
Ah oh, oui. Ah, bah,
oui. Fait que moi, j'avais mon truc, c'est la bédaine, je vais aller dans le bain. Puis, ouais.
Tant mieux.
Pour surveiller. Mais quand même. Il faut savoir aussi que le risque d'avoir une césarienne d'urgence lors de n'importe quel accouchement vaginal, c'est 2,7%. Donc, procédance du cordon, hémorragie importante, détresse fœtale aiguë. Tu sais, moi, c'était une détresse fœtale, le cœur qui décélérait. Fait que c'est quand même 2,7%. Là, fait que, voilà, je tenais à le mentionner aussi. Donc, je vais nommer qu'est-ce qui peut augmenter le risque de séparation de l'incision utérine, donc le risque de rupture utérine lors d'un AVAC. Il y aurait le déclenchement artificiel du travail, donc surtout si on administre de la prostaglandine. Fait que ça, en théorie, ils ne proposeront pas s'ils savent que c'est un AVAC. Je vais y revenir.
Dans quel médicament, ça, prostaglandine?
Il y en a dans le sperme. Fait que tu sais, dans les techniques de vouloir déclencher l'accouchement, le sperme contient de la prostaglandine et ça peut faire, justement,
si seulement ça
marcherait le col un peu mieux. Fait que ça, on ne veut pas ça. On ne veut pas non plus l'administration de cytocine durant la phase de latence. Donc, avant 3-4 cm de dilatation, avant que tes contractions soient fortes et régulières, on essaie de ne pas administrer de cytocine. Le docteur chercheur québécois Emmanuel Bugeaud, donc il est très connu, très pro-AVAC, lui, il est d'avis que le travail à la cytocine de façon raisonnable après 5 cm de dilatation ne poserait pas de problème. Mais quand même, ça prend une bonne préparation à l'accouchement là, pour se rendre quand même à 5 cm. Puis, je recommande aussi beaucoup d'avoir une accompagnante à la naissance.
C'est cytothèque?
Oui. Mon Dieu.
Okay. Excusez, je viens de faire une petite recherche Google en même temps. Puis, la prostaglandine qui assouplit le col de l'utérus pour préparer au travail et déclencher des contractions, c'est cytothèque.
Ah, bon, voilà.
Fait que moi, je l'entends souvent.
Oui, il y en a quand même.
C'est comme beaucoup. Le déclenchement doux, là. C'est souvent
oui, c'est ça,
le début.
Avec ça.
Là. Ouais.
Ouais. Pour ce qui est des approches alternatives, les points de pression d'acupuncture n'ont pas été évalués en recherche. Fait qu'on ne sait pas si tu as des points d'acupuncture, si ça pourrait nuire ou aider à la VAC là, pendant ton accouchement. Fait que ça serait mieux d'éviter pour déclencher l'accouchement par l'acupuncture là, si tu as eu une utérus cicatriciel, là, finalement. Mais il y en a qui ne veulent pas dépasser le terme non plus, parce que des fois, les médecins vont dire « Ah, t'es mieux d'essayer d'accoucher justement avant 40 pour pas que je te déclenche. » Fait que là, ils vont en acupuncture. Soyez avisés qu'il n'y a pas eu d'études qui étaient faites là-dessus, dans le fond. Fait que c'est à ton choix. Contre-indication. Si tu as une incision verticale sur ton utérus lors de ta césarienne antérieure ou si tu as une suture en un plan, contre-indication. C'est sûr qu'ils n'essayent pas ça. D'où l'importance, dans le fond, pourquoi ma sage-femme voulait avoir mon rapport, c'est aussi de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la césarienne, comment ils ont recousu, puis c'est quoi les sutures là, qu'ils ont faites. Fait que moi, c'était correct. C'est une étape à la fois.
Ouais. Puis, c'est que ça doit être, mettons, s'ils n'ont pas le choix, mettons, de faire ce genre d'incision.
Avant, avant, ils faisaient vraiment beaucoup plus des incisions verticales. Là, c'est devenu comme tout le temps le même protocole. Pas...
Ouais.
Mais tu sais, si tu as une césarienne, bébé était, je sais pas, tu as une césarienne, mettons, à 28 semaines de grossesse, le bébé est plus petit, il est plus, ça se peut que là, ou il fallait qu'il recoupe plus vite parce que ça se peut qu'il ait fait aussi. Ouais. Les sutures en un plan sont quand même vues encore, les incisions verticales un peu moins. Là.
OK. Ouais.
Le monitoring électronique fœtal en continu, il est instauré au Canada pendant la VAC. Ça, t'as pas le choix. J'ai essayé de le négocier et c'est vraiment un non. C'est pour protéger le médecin, c'est pour protéger la sage-femme aussi en cas de poursuite, même s'il y a un gros taux d'erreur là, avec cette maudite machine-là, comme moi aussi. C'était comme, on le capte moins bien. Là, c'est tout le temps de, là, c'est ça. Ça te sort un peu de ta bulle. Là.
Ouais.
D'essayer de tout, d'avoir le...
Mais c'est parce que même pas en continu, c'est...
C'est gossant, là. Ouais, fait que, ouais. Ouais, c'est vraiment,
je peux pas
vraiment
gossant.
Pourquoi? Ben, tu sais, il y a beaucoup de poursuites aux États-Unis, hein, on est proche des États-Unis. Fait que, il y en a eu des poursuites aussi pour des médecins, des sages-femmes, des gynécologues. Fait que là, c'est instauré pour ça. Pas parce que tu es plus à risque, mais parce qu'ils se protègent. Faut juste que tu le vois de cette façon-là. Voilà, plus positif. La position couchée sur le dos va comprimer aussi ta veine cave, pourrait nuire à l'oxygénation du placenta et cette position-là pourrait amener une décélération du rythme cardiaque de bébé. Fait que c'est aussi de le savoir. Là. Fait que d'essayer des positions que tu n'es pas couché sur le dos va vraiment aider. Là. Est-ce que ça ne décélère pas et que l'équipe de soins ne panique pas? Là, parce que c'est ça qui peut être paniquant aussi.
Intéressant.
Puis c'est ça, de plus en plus, on a le monitoring intermittent avec un Doppler qui est manuel ou portatif là, pour pouvoir bouger, marcher comme on le souhaite ou aller dans le bain comme je disais tantôt. Je veux parler maintenant des risques de la césarienne. Fait qu'il y a 3 fois plus de risques de décès qu'un accouchement vaginal quand on a une césarienne. 4 à 5 fois plus de risques de complications graves à court terme, comme des infections.
Le décès, c'est chez la maman?
Je pense que je le mets plus tard pour le bébé. Là, ouais.
Okay.
Risque de décès accru pour le bébé, là, ça va être pour la maman. Okay. C'est vrai que c'était pas clair. Là. Fait que pour la maman, plus de risque de décès, plus de risque de complications graves, hystérectomie aussi, infection, thromboembolie, arrêt cardiaque. Ça, c'est qu'est-ce qu'il y a noté. Augmentation des risques de complications à plus long terme, fertilité, adhérence. Toi, tu le vois là, en clinique, ça peut causer des douleurs pelviennes persistantes. Des problèmes intestinaux aussi, problèmes de fertilité, taux plus élevé de grossesse ectopique ou de décollement placentaire aussi pour une future grossesse. Douleur aux relations sexuelles, je ne l'avais pas nommé, mais quand je pense à douleur pelvienne, c'est ouais, ça. Oui,
je vois souvent.
Oui, vraiment. Moi, j'ai constaté que c'était plus difficile le retour aux relations, étonnamment, après ma césarienne versus mon accouchement vaginal.
Oui.
Mais je te connaissais pas. C'est vrai. Je t'ai vu juste en postpartum de ma deuxième. Pour le bébé, oui, risque de décès accru aussi. 4 fois plus de problèmes respiratoires, asthme, allergie. C'est ce qui est noté. Les raisons de césarienne non absolues les plus fréquentes. Bébé qui est en siège, antécédents de césarienne, travail dystocique, donc tête du bébé mal placée quand il descend. Détresse fœtale, fait que ça va être... des césariennes que ça aurait pu être un accouchement vaginal aussi. Fait que c'est ça. Les raisons de césarienne qu'on peut avoir, qui sont non absolues, bébé en siège, bien là, ils vont proposer césarienne parce qu'il n'y a pas beaucoup de médecins qui vont faire l'accouchement en siège.
Puis il y a des restrictions.
C'est ça.
C'est plus anxiogène, mettons.
Ouais.
Une fois que tu décides d'aller vers ça.
C'est ça. Si tu as déjà eu une césarienne, bien là, ils vont te proposer. Est-ce que tu es à l'aise avec la vague ou non? Si bébé était mal placé en descendant, donc travail dystocique qu'on appelle, ça aussi, ça va être une césarienne la plupart du temps. Détresse fœtale aussi, comme moi c'était, ça allait finir en césarienne. Mais ça, c'est comme du OK, ça dépend. Raison absolue d'une césarienne, c'est une déformation sérieuse dans le bassin qui est causée par exemple par le rachitis, un accident de la route que tu aurais eu. Prostance du cordon, bébé qui est en transverse, en transversale dans ton ventre, ça, ils n'essayeront pas. T'es en siège, ils peuvent essayer, mais en transverse, ils n'essayent pas. T'as un décollement placentaire, t'as un placenta prévia, donc qui bloque le col. On s'entend, t'as pas le choix d'avoir une césarienne. Mauvaise santé de la mère aussi, mettons, t'as un état cardiaque là, qui peut être compromis. Des fois aussi, santé mentale, ils vont proposer, t'sais, ça serait peut-être mieux à ce moment-là, césarienne. Donc, si tu as eu justement une césarienne suite à un déclenchement de travail, ça n'a pas marché. Si tu as eu perdu les os 24 heures avant, si tu as dépassé le terme, si tu fais de la pré-éclampsie, si tu as de l'herpès génital, diabète, des jumeaux, tout ça, ben c'est pas d'emblée une césarienne, c'est vraiment du cas par cas à parler. Donc, c'est des indications qu'on appelle relatives. On avait parlé à l'épisode, je ne me souviens plus lequel, je voulais le retrouver, puis j'ai oublié, là, mais la disproportion céphalo-pelvienne, donc ton... la grosseur de ton bassin, là, quand bébé, ton bassin est petit, bébé ne passera pas. Il y en a qui vont dire, je vais te faire passer justement des scans pour voir ça, mais c'est moins fréquent que ça laisse entendre. D'habitude, le bassin est capable quand même de s'ouvrir.
Mm-hmm.
Souvent, ça va être une mauvaise position de la tête de ton bébé. Ou si la mère elle bouge bien son bassin pendant la poussée, ça va être différent de se coucher sur le dos sans mouvement possible. Fait que c'est tout ça, là. Le succès d'un AVAC, là, dans le fond, selon moi, ça dépend vraiment beaucoup de la motivation de la femme. Fait que moi, j'étais dans la motivation de on l'essaye, tu sais, une chance sur deux, OK, tu sais, une étape à la fois. Fait que moi, c'était ça. Après ça, quand tout allait bien, ben la détermination, oui, hey, ça me tente, tu sais, je veux y aller comme jusqu'au bout. Fait que quand j'étais arrivée à l'hôpital, j'étais déjà dilatée à 5. Fait que ça m'a vraiment motivée, j'étais déterminée. J'étais comme, OK, à mon premier accouchement, me rendre à 5, ça a été la souffrance totale. Là, je chill, je danse sur mon ballon, j'étais à 5, puis tout va bien. Fait que j'étais comme en sécurité. Le reste, ça a juste coulé. Ça dépend aussi de tes habitudes de vie. Fait que l'entraînement, super important. Mm-hmm. d'être justement capable de... Moi, j'ai fait beaucoup de squats dans mon accouchement ou de position. Fait que plus j'étais endurante des jambes, je pense que ça m'a quand même beaucoup aidé. Fait que avoir des bonnes habitudes de vie aussi, sommeil, tout ça en général. Se sentir en confiance et soutenu par les professionnels de la santé. Fait qu'avec les sages-femmes, sérieusement, j'étais vraiment contente. Après qu'on m'ait dit qu'il y avait un gynécologue qui avait accueilli une femme en disant « T'es mieux de pas me stresser avec ça. » Fait que c'est ça. Puis, comme je disais aussi, l'accompagnante à la naissance, ça peut vraiment beaucoup, beaucoup aider là, dans les cas d'AVAC. Je pense que ça fait le tour de ce que je voulais faire pour l'AVAC. C'est ça, si vous voulez vraiment l'accouchement en général, là, c'était... dans nos épisodes hors série, comme Joël mentionnait. Moi, j'étais comme la 4e sur 4, vu que c'est comme ma 2e fille.
Ouais.
La fille à Joël est un petit peu plus vieille que la mienne. Fait que c'était... On était allés en ordre de naissance.
Mais, l'épisode pour le bassin, là, c'est 64.
L'épisode 64, OK.
Ouais.
Pour t'as un petit bassin, tu peux pas accoucher. Il
ouais.
faut que tu aies une césarienne à cause de ça. Ouais. Allez,
on a été
ça.
Sortir les chiffres.
Yes, fait que c'est ce qui complète cet épisode. J'espère que ça vous a éclairé un petit peu avec mon vécu puis qu'est-ce que j'avais lu comme statistique. Mais pour vrai, je vous encourage vraiment à aller lire toute la documentation officielle qu'il y a là-dessus. Puis c'est correct aussi si tu n'as pas le goût de revivre une césarienne d'urgence parce que tu es resté avec un trauma ou ça n'a vraiment pas bien été. C'est correct aussi d'avoir une autre césarienne. Il faut juste que tu saches quand même, oui, qu'il y a des risques. Puis c'est d'avoir une bonne équipe de soutien aussi. C'est la césarienne planifiée, apparemment, que ça se passe quand même mieux qu'une césarienne d'urgence. Tous ceux qui m'ont dit qu'il y avait été une césarienne planifiée dans le sens que tu es plus relax, tu es moins stressé, tu dors bien parce que tu sais que c'est demain que ça se passe. Fait que comme c'est différent là, quand même le percenti. Là. Fait que,
C'est ça, moi aussi, les témoignages que je reçois. Ouais. Comme que, mais c'est pas juste parce que c'est une césarienne planifiée. Je pense que c'est aussi parce qu'ils savent le type de récupération
qu'ils ont déjà passé par là. Ouais. Fait que,
je pense que l'expérience joue pour justement le fait de vivre un peu moins d'inconfort, un peu moins de douleur.
Effectivement, la récupération pour avoir eu les deux est semblable là, quand même, mais est différente.
C'est ça, des fois, ça, lever, ça va moins bien. Le comprendre. Comme, même si c'est le deuxième, là, des fois, ça arrive. Là,
c'est ça. Puis si tu tentes la vague puis tu ne complètes pas la vague, c'est pas grave dans le sens que laisse-toi quand même vivre, oui, ton deuil que tu auras à vivre. Il y a beaucoup de ressources aussi. Pour ça, je pourrais les mettre en note d'épisode, mais tu auras essayé. Moi, c'est un petit peu ça, mon approche de dire tu l'as essayé quand même. Puis ça se peut. Il y a quand même une chance que ça soit une autre césarienne d'urgence aussi, mais tu vas l'avoir déjà eu ta césarienne d'urgence. Fait que tu vas peut-être... ou peut-être pas tant, nécessairement, parce que si tu avais eu une césarienne d'emblée pour un bébé en siège, ben là, ton deuxième accouchement pourrait être un accouchement. C'est ça, vrai. Tout ça peut aussi.
Ouais.
Mais tu as reçu que c'est ça, ta récupération était comment? Fait que ça se ressemble. Sûrement après une césarienne ou une autre césarienne. Mais c'est ça, c'est vraiment ton choix à toi. C'est pas le médecin qui va dire... qu'est-ce qui est bon pour toi si tu n'as pas de contre-indication comme j'ai nommé et que tout va bien, pourquoi pas. Il y avait un dernier point que je voulais qui m'a popé, puis là, je viens de l'oublier. Mais en tout cas, je l'écrirai dans les notes ou dans l'intro si ça me revient.
Mais toi, tu es fière de l'avoir fait.
Ben oui, c'est ça. Je suis contente. Puis mon accouchement par césarienne n'est pas un échec. Fait qu'on ne peut pas réussir ou échouer un accouchement. Je veux dire, un accouchement, c'est un accouchement. Mm. Les récupérations, c'est ça, étaient différentes. Mais somme toute, c'est des enfants en santé, épanouis. Puis les deux sont pareils. Là, je veux dire, il n'y en a pas un qui a plus de problèmes que l'autre, même si j'ai nommé tantôt les risques pour le fœtus. Là, je pense que c'est juste quand même de le savoir, mais ça mes enfants sont pareils. C'est juste qu'ils savent qu'il y en a un qui c'est un bébé kangourou qui est né par le ventre, puis l'autre, c'est un bébé timinou qui est né par en bas. Fait que, c'est leur... ils le savent. Et puis, oui, ils ont voulu visionner des genres d'accouchement aussi. En version image, enfant. Mais ouais, ils sont rendus à l'âge qu'ils sont curieux. Les enfants t'ont-tu demandé ça?
Nice! Ben, je leur ai donné des détails. Fait que okay. Je mets pas d'image. Je sais pas.
Une vidéo, vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux. Là, la césarienne, c'est, je pense, c'était une gynécologue qui avait fait un en plastine, un ventre. Puis il y avait, tu sais, on coupe là, puis l'enfant coupé aussi.
J'adore
tout ça. Puis dedans, il y avait Spider-Man. Puis là, tu sais, je leur ai montré ça. Fait que ça disait
c'est
tout.
C'est vraiment.
Là. C'est comme ça que. Ouais. On va aimer.
Mais moi, ils ont eu quelqu'un qui est allé les rencontrer, celui qui est en deuxième année, là, pour parler, en gros, éducation à la sexualité. Okay. C'est quand même de comment les bébés sont faits, puis tout ça. Puis le mien était tout fier de dire comment il avait fait de caca en sortant.
Parce que tu avais donné...
Elle devait être tellement bouchée, la madame, genre, OK.
Il avait donné ce détail.
Il était vraiment fier, ouais.
Bon. À la question, quand est-ce que la phase pipi-caca se termine? Jamais.
Ouais, pas encore. Je pense que leur père en est un exemple.
Aïe, aïe, aïe. Donc, voilà, commence à dire, il est tard. Hein? Commence à dire des niaiseries, fait qu'on va arrêter ça, là. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire, ça va me faire plaisir là, de partager mon vécu avec vous.
Yay!
Bye tout le monde!
Bye!
Hey, merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si tu as apprécié, n'hésite pas à le partager avec toutes les femmes de ton entourage qui pourraient être intéressées par le sujet de cet épisode. Tu peux aussi nous laisser une note de 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts. On te remercie vraiment beaucoup de soutenir notre mission et à la semaine prochaine!